Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Toutes et à tous, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 23 mai 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Fatal faux pas d'Israël, un conseiller militaire iranien en Syrie, assassiné à Téhéran, le jeu change. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, le président Raïssi à Mascate pour des entretiens de haut niveau, la coopération énergétique à l'heure du jour. Assassinat d'un colonel du CGRI, la vengeance est sûre et certaine, a promis le président iranien Ibrahim Raïssi. Et puis, pas de répit dans la résistance du peuple palestinien contre le régime israélien, a promis le Hamas. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Ibrahim Raïssi est arrivé à Oman pour une visite officielle où l'expansion de la coopération bilatérale est à l'ordre du jour. Ibrahim Raïssi a été accueilli ce lundi matin par le sultan d'Oman, Haïssam bin Tariq, à son arrivée dans son palais officiel d'Al Alam. Le président Raïssi a déclaré avant son départ pour Mascate que l'Iran et Oman étaient déterminés à renforcer leurs liens politiques et économiques déjà étroits. Le chef du gouvernement iranien a noté que les deux parties signeront plusieurs protocoles d'accord lors de la visite. Il s'agit des accords axés principalement sur les transports, l'énergie et le tourisme, a ajouté le président. Le gouvernement Raïssi poursuit une politique de renforcement des relations avec les pays voisins. S'exprimant toujours avant son déplacement à Oman, le président Raïssi a ordonné une enquête sérieuse sur l'assassinat d'un membre du corps des gardiens de la révolution islamique à Téhéran. Ibrahim Raïssi a promis de se venger du meurtre du colonel Sayyad Rodaï. Le président de la République islamique a déclaré que les puissances mondiales arrogantes étaient impliquées dans le crime. Le colonel du CGRI a été assassiné dimanche dans sa voiture devant son domicile à Téhéran. Il a été abattu de 5 balles par 2 motards. Réagissant à l'attaque terroriste, le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié l'assassinat d'opération terroriste et de crime inhumain. Le ministère a déclaré qu'il était regrettable de voir des pays prétendant lutter contre le terrorisme garder le silence sur l'assassinat. L'Iran cherche à étendre ses relations avec les pays africains. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, lors d'une rencontre avec Candide Mashego Dlamini, vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères à Téhéran dimanche, a déclaré que l'actuelle administration iranienne cherchait à étendre ses relations avec les pays du continent africain. La vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères, qui est dans la capitale iranienne à la tête d'une délégation pour assister à une réunion du comité délibératif politique conjoint des pays, a rencontré dimanche le chef de la diplomatie iranienne. Hossein Amir Abdollahian a déclaré que l'administration iranienne actuelle maintient une perspective particulière des relations avec l'Afrique du Sud, ajoutant que l'Iran ne reconnaît aucune limite concernant l'expansion de ses relations avec le pays. Amir Abdollahian a décrit les relations conjointes comme historiques et amicales. Il a déclaré que les deux pays disposent de très bonnes capacités qui pourraient être utilisées pour le développement de leurs relations et a rappelé que la prochaine réunion de la commission conjointe des pays qui allait avoir lieu à Pretoria était importante à cet égard. Le responsable iranien, en plus, a exprimé sa gratitude envers l'Afrique du Sud pour ses positions de soutien concernant la lutte du peuple palestinien face à l'occupation et à l'agression israélienne. Le responsable africaine, pour sa part, a exprimé l'espoir que la réunion du comité délibératif politique conjoint comportait des discussions favorables et constructives sur diverses questions et aboutirait à l'établissement de la feuille de route des relations bilatérales. Il a également prévu que la réunion de la commission mixte en Afrique du Sud et la diplomatie de la navette par les responsables des deux pays conduirait à un développement ultérieur des relations mutuelles et de la coopération. Le chef du Conseil politique suprême du Yémen a déclaré que son pays n'était pas contre la prolongation d'une trêve de 2 mois négociée par les Nations Unies. Mahdi al-Mashat a cependant décrit le cessez-le-feu comme n'étant pas assez encourageant. Dans une allocution télévisée, il a appelé à une véritable coopération qui améliorerait la situation humanitaire et économique du pays. La trêve négociée par l'ONU entre la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et le mouvement Ansar Allah du Yémen est entrée en vigueur le 2 avril. Sanaa affirme que la coalition a violé l'accord de cessez-le-feu à plusieurs reprises. Les comités populaires d'Ansar Allah du Yémen ont déclaré avoir envoyé dimanche des représentants à Amman, la capitale jordanienne, pour prendre part à des négociations parrainées par l'ONU sur la levée du siège de la ville de Taiz dans le cadre de la trêve actuelle. Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a lancé une guerre contre le Yémen en 2015 dans le but d'y rétablir un régime fantoche. Cet objectif n'a pas été atteint, mais la guerre occultée et peu traitée par les médias et l'inaction complice occidentale ont provoqué la pire crise humanitaire au monde, comme l'a décrit l'ONU. Le Hamas dit qu'il n'y aura pas de répit dans la résistance du peuple palestinien contre le régime israélien. Le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Ismaïl Haniyeh, a fait ses commentaires lors d'un discours télévisé à l'occasion de l'anniversaire de l'opération palestinienne Sword al-Quds. Au cours de cette opération, des groupes palestiniens de Gaza ont tiré des milliers de roquettes sur Israël en réponse à une campagne de bombardement barbare des occupants contre Gaza. Haniyeh a déclaré que l'opération visait la sécurité du régime israélien et qu'elle ne se limitait pas à un territoire géographique spécifique, mais qu'il s'agissait d'une bataille stratégique avec des effets mondiaux. Il a également mis en garde Tel Aviv contre la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa, ajoutant que les Palestiniens ne toléreraient aucun acte sacrilège. Guerre en Ukraine, le négociateur en chef de la Russie a affirmé que Moscou était prêt à reprendre les pourparlers avec l'Ukraine. Le principal négociateur russe, Vladimir Medinsky, a ajouté que l'arrêt des pourparlers était une initiative de l'Ukraine, estimant que la balle était désormais dans le camp de Kiev pour les relancer. Le responsable russe a souligné que son pays n'a jamais refusé de s'engager le dialogue. Les deux parties ont tenu plusieurs séries de pourparlers depuis le début de la guerre déclenchée le 24 février. Les ministres ukrainiens et russes des Affaires étrangères se sont rencontrés pour des pourparlers organisés par la Turquie en mars qui se sont terminés sans percée. La Russie a lancé de nouvelles attaques dans les régions ukrainiennes du Donbass et Mykolaïv alors qu'elle cherche à sécuriser et à étendre ses gains dans l'est et le sud du pays. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir pilonné les positions ukrainiennes avec de l'artillerie et des frappes aériennes. Le ministère indique que 3 postes de commandement et 4 dépôts de munitions ont été touchés. En outre, plus d'une douzaine de zones où les troupes ukrainiennes et l'équipement militaire ont été amassés ont été visées. Pendant ce temps, des responsables ukrainiens affirment que 8 civils ont été tués dans la région du Donbass. Selon les autorités, la Russie a bombardé Kharkiv au nord-est et une autre région au sud-est. Enfin, le président américain Joe Biden a déclaré que son pays défendra militairement Taïwan si Pékin envahit l'île autonome, avertissant que la Chine flirte avec le danger. Le président américain a déclaré que Washington était d'accord avec la politique d'une seule Chine, mais a jugé inappropriée l'idée que la Chine puisse prendre le contrôle de Taïwan par la force. Biden a tenu ses déclarations à l'occasion d'une conférence de presse avec le premier ministre japonais à l'issue de leur rencontre ce lundi à Tokyo. Un communiqué de la Maison-Blanche a déclaré que Biden et Kishida se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour contrer l'influence croissante de la Chine en Asie. Pékin a vivement réagi dimanche par la voix de son ministère des Affaires étrangères, pour qui Washington cherche à former des petites cliques au nom de la liberté et de l'ouverture, en espérant contenir la Chine. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Fatal faux pas d'Israël, un conseiller militaire iranien en Syrie assassiné à Téhéran. Le jeu change. Le dimanche 22 mai, vers 16h de l'après-midi, hors de Téhéran, alors même que les stratèges de pacotille de l'entité avaient bel et bien engagé le diagnostic vital de l'armée de l'air sioniste, soit cette unique composante a encore tourné de la machine de guerre rouillée qu'est Israël, et ce à la lumière de 2 méga-ratages israéliens, les 13 et 19 mai, à Masyaf et à Damas, où les frappes israéliennes, appuyées par tout ce que compte US-OTAN en Méditerranée, ont viré en de mesquines agitations à la faveur d'une DCA intégrée, Syro-Russe Résistance, qui de Tartous à Damas a intercepté à plus de 85% les missiles air-sol, puis sol-sol d'Israël. Un officier de la force Rots, unité extraordinaire de la République islamique d'Iran, et du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, le dénommé Sayyad Rodaï, tombé sous les 5 balles tirées par 2 individus armés à bord d'une motocyclette, lesquels, une fois leur crime commis, ont lâchement pris la fuite. Or, puisque l'intéressé venait juste de rentrer de la Syrie et qu'il n'en déplaise au colporteur de la pressionniste qui jubile ce matin de son assassinat qu'il qualifie de second coup de taille après celui du savant atomiste en chef iranien Fakhrizadeh, tué en novembre 2020 près Téhéran, Sayyad Rodaï n'était ni chargé de transit de la technologie balistique de pointe vers le sud Liban, ni de la logistique de la force Rots en Syrie, ni non plus de ses unités de drones, ou encore moins de cette très curieuse tâche que décrit la chaîne 12, battant là des records de grossièreté, à savoir le kidnapping des sionistes. On est en droit de croire qu'Israël a commis un fatal faux pas qui va tout changer. Qu'en tiennent compte déjà de ces propos rapportés hier soir par un des hauts responsables du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne qui dit, cite, « Cet assassinat a franchi la ligne rouge iranienne. Il changera bien des équations que exécutants et commanditaires le sachent. Ils en paieront un lourd tribut. » Une promesse que le président Raïsi a tout à l'heure appuyée en présentant juste avant de prendre l'avion pour Mascate, capitale omanaise, où il entame une importante visite ce lundi, ses condoléances à la nation et en affirmant La main de l'arrogance est bien visible dans ce crime. La vengeance n'en sera que plus implacable.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Les forces russes ont tiré sur des chasseurs israéliens à l'aide de missiles anti-aériens S-300 au terme d'une frappe israélienne dans le nord-ouest de la Syrie la semaine dernière. Il s'agit d'un incident qui pourrait signaler un changement significatif dans l'attitude de Moscou envers l'entité israélienne. Selon un reportage de la 13e chaîne de télévision israélienne, cet incident sans précédent est survenu vendredi soir, il y a tout juste une semaine, quand l'armée israélienne a bombardé plusieurs positions à proximité de la ville de Masyaf, dans le nord-ouest de la Syrie. Le ministère russe de la Défense a déclaré plutôt que la plupart des missiles avaient été interceptés par des systèmes de défense antiaérienne de l'armée syrienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cet incident sans précédent, ce un changement d'attitude de la Russie envers Israël, bien sûr sur fond différents et de tensions entre les deux parties, au sujet de la guerre en Ukraine et bien sûr la perspective des évolutions à venir sur le paysage sécuritaire de la Syrie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le lundi 16 mai, alors même qu'apparaissaient les premières informations sur la chute du dernier bastion sioniste à Mariupol en Ukraine, soit cette redoutable usine sidérurgique Azovstal, où, selon le conseiller de Zelensky, qu'il évoquait pas plus tard que le 15 mai, quelques 40 officiers israéliens se battent contre l'armée russe, une armée que l'entité a promis à Rammstein, en Allemagne, d'en ratatiner la marine, rien qu'en la dotant de missiles anti-navires, spires bleus, d'une portée de 400 km, soit double de la distance qui sépare le port ukrainien d'Odessa des côtes russes, la 13e chaîne de TV sioniste a jeté une grosse pavée dans la mare, qu'est la guerre de Poutine contre l'international sioniste en faisant une révélation choc. À Masyaf en Syrie Ouest, où les F-16 israéliens ont cru bon de frapper le 13 mai, un site de recherche de l'armée syrienne, et ce, suivant les consignes strictes du QG US OTAN, largement impliqué dans les plus grands exercices militaires sionistes de ces derniers temps, chariots de feu, les S-300 ont tiré pour la première fois. Mais peut-on vraiment prendre à la lettre le sioniste Ben David quand il dit avec une curieuse assistance qu'aucun des F-16 israéliens participant à la frappe de Masyaf, quand c'est par ailleurs avoir été chargé, n'ont pas tant à frapper une quelconque usine de fabrication de drones ou de missiles syriens, car depuis tant que ces frappes perdurent, le trio Syrie-Iran-Hezbollah a bien appris comment les protéger que pour mettre à l'épreuve les capacités d'interception des radars S-300 et S-400 russes en vue d'une extension substantielle de la guerre en Ukraine avec en toile de fond l'émergence de nouvelles bases otaniennes en Suède et en Finlande, dont les territoires se trouvent à peine à 300 km de Moscou et de Saint-Pétersbourg, ce qui fait d'elles de meilleures candidates à des attaques balistiques anti-russes. À vrai dire, ce premier face-à-face Israël-Russie dans le ciel de la Syrie que les pro-résistants attendaient avec impatience depuis 2018, date à laquelle l'entité a fait descendre pour le compte là encore de l'axe US-OTAN le labo aérien de l'armée russe, soit un IL-20 au large de Latakia, et ce, dans le strict objectif de faire inverser les rapports de force aériens en défaveur de Moscou, de rendre aveugles ces Sukhoi en prévision de la création d'une zone no-fly en Syrie occidentale, si l'entité le médiatise, c'est qu'il a lamentablement perdu.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue, et depuis Moscou avec Fabrice Bahr, expert pour l'ONG EOD. M. Bahr, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Merci. Merci, monsieur.
M. Bahr, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends parfaitement. Bonjour.
Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Alors, il y a tout juste une semaine, Monsieur Bahr, des batteries S-300 russes ont tiré sur des chasseurs israéliens dans le ciel syrien, dans la province de Hama, la ville de Masyaf, après une frappe israélienne. C'est en effet la première fois que la Russie active le système de défense aérienne S-300 contre les chasseurs israéliens. Quelles pourraient être les significations de la mise en œuvre de la batterie S-300 contre les chasseurs israéliens par la Russie?
Bon, déjà, il faut noter que les S-300, il y en a qui sont directement sous le contrôle de l'armée russe, puisque ce sont les propres S-300 pour la défense des bases aériennes et portuaires sur la côte de Latakia. Et puis, il y a des batteries qui sont déployées au sein de l'armée syrienne. Mais dans le cadre d'une défense aérienne globale, il est bien évident qu'ils sont coordonnés et qu'il ne peut pas y avoir de tir de S-300 syrien sans l'autorisation, évidemment, des militaires russes. Donc, ce tir qui a été effectué, à tout le moins, s'il a été tiré depuis une batterie syrienne, prenons ce cas-là, a été autorisé donc, par le commandement militaire russe en Syrie, en tout cas dans la région de Latakia. Donc c'est un signal même envoyé l'entité sioniste d'Israël pour la simple et bonne raison. Il y en a deux, évidemment. Une, peut-être, c'est qu'il commence de plus en plus à tirer sur l'armée syrienne, et ça c'est la ligne rouge que Moscou a toujours indiqué à Israël, c'est que vous ne ciblez pas l'armée syrienne qui est notre interlocuteur, qui est l'armée de l'État syrien, et que donc vous n'avez pas à le faire, premier élément. Et puis deuxième élément, évidemment, si on le prend dans un contexte un peu plus global et actuel avec l'opération spéciale russe en Ukraine et la position de l'État d'Israël qui, au tout début, avait pris parti non officiellement pour l'Ukraine et qui après était revenu avec le nouveau Premier ministre en essayant d'être un intermédiaire entre Moscou et Kiev pour terminer par soutenir militairement et publiquement et médiatiquement la junte de Kiev. Évidemment, c'est un signal qui est envoyé puisque fournir des armes à l'Ukraine, c'est vouloir tuer des soldats russes. Et donc, vouloir tuer des soldats russes, ça mérite une réponse. Et donc, on peut comprendre que ce missile est un signal envoyé à Tel Aviv pour leur dire que vous avez franchi une ligne rouge et que maintenant, on peut aussi aller crescendo, si vous voulez. Donc, c'est un signal. Est-ce que ce sera après systématique, puisque l'aviation de l'armée sioniste d'Israël, évidemment, va continuer, puisqu'ils sont comme les Américains, ils n'arrêtent que lorsqu'ils sont dans leur trou et qu'ils ont la force en face d'eux. Donc, les semaines qui vont venir ou les mois qui vont venir, il faudra bien regarder, évidemment, la position de la défense antiaérienne commune russo-syrienne sur le territoire donc, de la République arabe syrienne par rapport aux agressions de Tel Aviv. La situation est celle-ci. Je penche plus vers le signal fort envoyé à à Tel Aviv, et ce ne sont pas, et on le voit d'ailleurs dans la presse israélienne, où ils en parlent, et ils en parlent évidemment en disant oui, mais c'était pas, le S-300 n'a pas flashé nos avions, n'était pas vraiment en danger. Généralement, ils ne parlent pas de cela. S'ils en parlent, c'est qu'effectivement, ça leur pose quelques soucis. Et c'est cela, en cela, que ce signal est fort, et à mon avis, qu'il ne faut pas le prendre à la légère.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, Monsieur Codabandé. Bonjour à Monsieur Bohr et bien sûr à vos auditeurs.
Monsieur le professeur, déjà depuis 2017, en effet, l'entité israélienne a effectué plus de 400 frappes aériennes contre la Syrie. Et c'est la première fois que l'armée russe, en effet, active la batterie S-300 contre les chasseurs israéliens. Pour vous, quelles sont les principales raisons du lancement, en effet, du S-300 contre les chasseurs israéliens? Est-ce que là, il s'agit d'un signal de représailles de la part de la Russie pour le soutien de Tel Aviv à l'Ukraine, ou une façon d'exprimer en effet un désaccord sur les agressions israéliennes en Syrie?
Oui, on peut le voir ainsi, on ne peut pas le contredire, mais il ne faut pas non plus exagérer, la tension entre les deux parties, je veux dire, entre l'entité sioniste et la Russie. Je signalerai, ceci n'a rien de fantastique, que les Israéliens ont déjà frappé un de leurs alliés, vous savez, il y a de cela très longtemps, en 1976, je crois, en coulant le navire américain, le Liberty Ship. Les Israéliens sont liés à la Russie par le fait que, d'abord, la Russie est un des parrains de la présentation de l'État juif, comme on disait, le Jewish State, en 1947 aux Nations Unies, j'ai eu l'occasion de le dire quelquefois. Et ce sont des querelles, disons, de négociations, de rapports de force, voyez-vous. Mais je reconnais en effet l'analyse de M. Bohr là-dessus, elle est évidente. Mais il faut bien penser que c'est un rapport entre les Russes et le pouvoir russe, disons, et le pouvoir israélien, des rapports fluctuants, voyez. Ça ne peut pas être des rapports d'adversité radicale. Car de toute façon, envers leur parrain, disons, les sionistes ne sont ni fidèles, voyez-vous, ni sûrs. Mais ils utilisent leurs influences, voyez-vous, dans l'affaire ukrainienne, qu'on lie avec raison à cette nouvelle tension, si vous voulez. Il y a également une part, disons, ambiguë, joué par les Israéliens. Je le vois parce que dans la presse, par exemple, qui est sous leur contrôle, ici en France, vous avez à la fois des campagnes pour l'Ukraine et des campagnes, disons, contre l'Ukraine. Et il faut le voir de très près. Ce qui cherche les Israéliens, c'est maintenir une sorte de, comment on appelle, d'atmosphère belliqueuse, voyez-vous. Et je crois que les pays d'Orient ont raison d'utiliser les conflits entre leurs adversaires, voyez-vous. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis déjà de plusieurs années, la Russie joue un rôle positif, voyez-vous. En Syrie, nous le savons. Mais cela ne signifie pas qu'il y a, disons, un renversement de ce que j'appellerais, pour aller plus haut, l'esprit de Yalta. D'un côté, les Russes et les Américains, entre les Israéliens qui sont eux, et entre les Israéliens et ces deux puissances. Donc il faut, disons, juger de ces symptômes, car ce sont des symptômes positifs, mais avec prudence. Voilà ce que je peux dire comme présentation, et je suis d'accord évidemment avec le jugement de M. Bohr.
Merci infiniment, Monsieur le professeur. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Bohr, ce changement significatif de Moscou, dans l'attitude de Moscou à l'égard d'Israël, si en effet on pourrait analyser en effet ce lancement de cet angle, quel en sera l'impact sur l'évolution de la sécurité en Syrie?
Les Israéliens ont toujours évidemment vu d'un très mauvais œil l'arrivée de la Russie en Syrie, en particulier avec sa défense antiaérienne. Alors jusqu'à présent, ça a été indiqué. Par défaut, la Russie n'est pas l'ennemi d'Israël, mais n'est pas non plus l'ami, surtout avec ce qui s'est passé avec l'avion abattu et l'histoire que l'on connaît au large donc des côtes syriennes. Ce qui se passe en Ukraine, évidemment, également est un élément à prendre en compte. Pourquoi ? On va dire, mais c'est loin de tout cela. Non, tout ça est lié parce que la Russie ne réagit très rarement de manière symétrique. Généralement, c'est plutôt asymétrique. Et lorsque vous faites quelque chose qui va contre les intérêts vitaux et qui met en danger non seulement une opération spécifique, spécial et qui peut aboutir à des morts russes, il est évident que vous allez en payer le prix à un moment ou à un autre. Et d'une manière asymétrique, évidemment, la chose la plus aisée à comprendre, c'est aujourd'hui la position de la Russie en Syrie. Puisqu'il ne faut pas se cacher, les Russes ont comme ligne rouge, bon déjà vous ne nous bombardez pas, puis vous ne bombardez pas l'armée arabe syrienne, parce qu'en face on est dans un combat contre le terrorisme, et donc si vous tapez sur l'armée arabe syrienne, c'est comme si vous tapez, vous aidez le terrorisme. Alors ça a été la ligne, et après les autres frappent contre des forces alliées de la République arabe syrienne. Jusqu'à présent, la Russie ne faisait rien contre, mais ne faisait rien pour non plus. Elle était neutre dans cette situation. Et si on voit aujourd'hui la défense antiaérienne russe commencer à se mettre, ou syrienne, mais coordonnée, commencer à tirer, il est évident qu'il y a des zones, pas toute la Syrie, hein, mais qu'il y a des zones qui seront totalement interdites à l'aviation israélienne, et ça leur poserait bien évidemment des problèmes dans leur volonté continue toujours d'empêcher les pays voisins d'avoir quoi que ce soit pour se défendre, puisque lorsqu'on se défend, ça permet d'avoir une politique souveraine plus proactive. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que la Russie était prête à recevoir d'une manière diplomatique un représentant du Hamas à Moscou dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. C'est pas encore fixé, mais c'est dans les tuyaux et publiquement. Donc je pense que ça aussi, c'est une réponse du berger à la bergère.
Merci encore. Merci. Alors, monsieur le professeur d'Ortéguia, alors pendant toutes ces années, alors la Russie et l'entité israélienne avaient convenu en quelque sorte d'un accord pour éviter, oui, en effet, des incidents aériens dans le ciel syrien. Est-ce qu'avec le récent incident, on pourrait dire que c'est en quelque sorte, cela marquerait la fin du mécanisme de déconfliction entre les deux parties?
Oui, en effet, j'ai vu ce terme de déconfliction apparaître dans un article, un commentaire, et il est exact. C'est vrai qu'on peut aboutir à une déconfliction. Je dirais que ce qui préoccupe beaucoup Israël, ce n'est pas tant l'armée syrienne que le mouvement au Liban et le mouvement palestinien, disons, autour de M. Nasrallah et autres. Et alors, ce que j'attends de voir, c'est l'attitude justement d'Israël qui pourrait répondre à cette nouvelle situation militaire, disons, imposée par la Russie et la Syrie, par un essai de désorganisation de la vie politique au Liban, voyez, et aussi en accroissant peut-être une certaine différence ou hostilité à l'intérieur du mouvement palestinien. Voilà. Je crois que nous avons affaire à une volonté de puissance générale, bien sûr. Et une fois, je crois que chacun là voit les avantages matériels, si vous voulez. C'est normal pour une puissance. Mais je crois que l'hostilité d'Israël peut prendre plusieurs visages. Voilà.
Merci encore, monsieur le professeur. Alors, monsieur Bauer, en dehors du dossier syrien et de ce changement d'attitude de la part de Moscou, vous avez fait allusion tout à l'heure justement à cette approche russe envers les mouvements de résistance palestinienne, mais dans un sens plus large. Eu égard à ces tensions entre Moscou et Tel Aviv, alors ce changement d'approche, ce changement d'attitude de Moscou pourrait en effet s'étendre à des dossiers plus importants dans la région, l'axe de la résistance dans son ensemble, mais aussi en effet cette politique de partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran, notamment en Syrie.
Depuis le début, si les États ont des intérêts et pas d'amis, puisque ce sont des relations froides, bien évidemment, des relations normalement rationnelles et convenables, c'est tout du moins ce qui existe dans la plupart du monde, à part évidemment cette dite communauté internationale qui est en fait le bloc occidental, qui dit quelque chose et qui fait autrement. Les relations entre la Russie et l'Iran, pour moi, ont été fortifiées à partir de l'action commune militaire dans la lutte contre le terrorisme en Syrie. Il est évident que ça a rapproché énormément les pays. À l'heure d'aujourd'hui, où le bloc occidental est à la pleine offensive, il est évident également que ça va rapprocher. Vous avez un autre élément qui va rapprocher, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ça a aussi une répercussion dans le monde sur les produits alimentaires. Et on le voit, il y a une inflation énorme. Et en cela, la Russie, bien évidemment, a les moyens alimentaires de pouvoir aider ses alliés. Donc tout ça, c'est un élément plus global. Nous sommes dans une guerre monétaire qui, pour la domination mondiale, en réalité, c'est bien une guerre monétaire dans laquelle nous sommes. Et la tectonique des plaques géopolitiques est en train, évidemment, de s'accélérer. Et il est évident que la Russie, à l'heure d'aujourd'hui, qui est le pays certainement qui collectionne le plus de sanctions du monde, et on a dépassé le vôtre. Donc, vous voyez, on arrive à une folie. Mais ça ne va que rapprocher les deux pays. Et il est bien évident que je ne vois pas la Russie trahir une amitié et une coopération technique acquise en Syrie et payée par le prix du sang des deux côtés. Donc pour moi, dans le cadre justement de ce bloc eurasien dont aujourd'hui fait partie l'Iran, l'Organisation de coopération de Shanghai, fait que je pense que dans tous les domaines, il va y avoir un redéploiement non seulement diplomatique, mais également de réponses géopolitiques plus larges. Et on le voit très bien à l'heure d'aujourd'hui avec les positions et les déclarations venant du ministère des Affaires étrangères à Moscou. C'est un signe. C'est même pas un signe, c'est un signal, non même pas envoyé d'ailleurs à Israël, mais en réalité envoyé au reste du monde et en particulier à ses alliés pour indiquer que Moscou, comme toujours d'une manière crescendo, mais arrive et ne lâchera pas, on va dire, ses amitiés et ses alliés. Donc en Syrie, pour le cas syrien pour lequel vous m'interrogez, moi je pense personnellement que on va pas changer fondamentalement la situation si les Israéliens continuent leurs attaques, mais de manière traditionnelle, allons-nous dire. Mais par contre, s'ils pensent servir, qu'ils ont la possibilité aujourd'hui, avec les deux blocs qui sont en train de se reformer, de pouvoir attaquer de manière dite préventive l'Iran, je pense qu'il y aura là des répercussions géopolitiques plus importantes et qui seront très négatives. Mais la question, c'est: est-ce que dans le bloc occidental, donc Israël compris, il y a encore une forme de rationalité pure qui puisse aboutir à un équilibre, même si c'est dans les arrière-cours des négociations diplomatiques? Je me pose la question, puisque lorsqu'on voit les comportements du bloc occidental sur le dossier ukrainien, ça devient totalement irrationnel, suicidaire. Israël, quand même, ils sont directement sur le front, puisqu'ils sont directement entourés de pays qu'ils ne considèrent pas comme alliés. J'imagine bien que Moscou ne va pas leur faire des fleurs, alors qu'Israël a choisi définitivement aujourd'hui son camp et de manière publique, dans un conflit qui, pour la Russie en Ukraine, est fondamental et qui, pour la Russie, est une trahison même de son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui est... c'est même pas une ligne rouge.
Merci.
C'est le summum de la trahison, mais c'est une habitude à Tel Aviv et c'est une habitude dans le bloc occidental de ne jamais respecter ses paroles et de toujours aller plus loin qu'il ne le faudrait.
Fabrice Poire, expert pour l'ONG depuis Moscou, Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci, monsieur Colabandi.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
La poésie persane avant et après la révolution islamique. Il y a près d'un siècle, suite au mouvement de modernisation en Iran, les relations commerciales et culturelles avec les pays de l'Ouest se développèrent et la société iranienne subit quelques changements. La poésie elle-même ne resta pas figée, puisqu'elle évolua en s'évidant des concepts stéréotypés pour devenir le miroir de la vie réelle. Les précurseurs de l'évolution de la poésie en Iran ne pouvaient qu'appartenir au cercle des militants politiques de l'époque. Ils se maîtrisaient au moins une langue étrangère, telle que le français, le russe ou le grec. La dernière fois, nous avons un peu parlé de ces poètes militants, dont est surtout Nima Yushich, le père incontesté de la poésie moderne persane. À la fin des années 20, deux événements dont les effets se manifestèrent 10 ans plus tard marquèrent le milieu poétique. D'une part, de jeunes poètes adeptes de Nima Yushich rompirent avec la métrique traditionnelle et s'attelèrent à la poésie poétique. Le plus impliqué de tous fut Ahmad Shamlou, qui exerçait à la fois les métiers de journaliste et de traducteur. D'autre part, Hushang Irani revint de France avec un bagage de poèmes surréalistes publié plus tard dans la revue Le Coq de Combat. Étudiant en France et connaissant de très près le dadaïsme et le surréalisme, il s'insurgea contre le symbolisme de Nima et le romantisme des néo-traditionalistes et écrivit des articles dans lesquels il les qualifiait de réactionnaires. Il prôna le principe de l'écriture automatique mais se définissait comme profondément non-conformiste, affranchi de tout engagement poétique et de toute revendication sociale, affranchi de tout présupposé. Sa poésie fut qualifiée de « cri violet », expression empruntée à l'un de ses poèmes. Chargé de critiques en provenance du camp des traditionalistes et des modernes, nimaïens néo-traditionalistes, dès son apparition au début des années 50, le cri violet ne fit pas long feu. En 1953, le gouvernement national du docteur Mossadegh fut renversé en moins de 4 heures par un putsch, malgré la forte présence du parti du peuple, Toudé. Atterrée par l'événement, la caste des intellectuels prit conscience de la difficulté d'actualiser la poésie politique comme elle l'envisageait. Le coup d'État les sortit d'un profond sommeil. Par ailleurs, la poésie persane subissait l'influence des auteurs étrangers, en particulier français. Mais un sentiment d'échec suffisait pour que les choses redeviennent ce qu'elles étaient. Les années 50 se traduisirent par le fiasco, la désorientation, l'insoumission, les balivernes, le libertinage, le sexe, la drogue et le désespoir, annonçant les prémices d'une révolution farouchement percevable. À cette époque, la poésie s'épura et devint tout à fait persane. La poésie nimaïenne s'assigna alors une place de choix. Son regard critique était Mehdi Ravan Salès, figure de proue du milieu littéraire, incollable en littérature de l'Antiquité et membre du parti Toudé. Il jonglait avec la poésie néo-traditionnaliste et nimaïenne. Ses critiques d'une grande justesse redonnèrent des ailes à la poésie de Nima, tombée dans un oubli qui avait duré 30 ans. Les années 50 seront dominées par la poésie néo-traditionnaliste, peignant le paysage culturel iranien, et par la redécouverte de la poésie nimaïenne, dont le succès ne dura pas longtemps, puisqu'à la fin de cette décennie, la modernisation et l'occidentalisation bénéficièrent d'un essor prodigieux. En 1962, la vague d'occidentalisation déferla sur tout le pays, divisant les poètes en deux groupes, les engagés et les non-engagés. Le premier qualifiait le modernisme du chat plutôt de paramodernisme purement démagogique. La poésie était pour eux l'arme absolue contre le régime au pouvoir. Le second, indépendant vis-à-vis du régime, prenait une poésie radicalement moderne, épurée de tout engagement, mélancolie, symbolisme, plainte poétique et amoureuse. Les poètes engagés, porte-étendard de la poésie politique de Nima, réintégrèrent à partir de la seconde moitié des années 60 les mêmes symboles que avait desservi jadis la créativité de la poésie nimaïenne et obtinrent un gain de lucidité qui conféra à leurs écrits l'apparence d'un parchemin politique. Les non-engagés étaient plus jeunes et optèrent pour un mode d'expression plus réaliste, proche du cri violet. Paradoxalement, ces poètes surréalistes, au lieu d'excéder leurs détracteurs, attirèrent l'attention de toutes les revues. Ahmad Reza Ahmadi apparut sur la scène en tant que précurseur de cette récente poésie surréaliste dite « la nouvelle vague ». Il était influencé par Hushank Irani et les recueils traduits de poèmes européens. La seconde moitié des années 60 fut marquée par la querelle des engagés et des non-engagés. Il ne restait dans les mémoires qu'un souvenir dérisoire de la poésie modérée et sentimentale des néo-traditionalistes. La poésie classique fut jetée aux oubliettes et la poésie nimaïenne, minée par les mêmes symboles, perdit de sa profondeur. Les grands poètes reconnus de l'époque, à savoir Chamblou, Ahavan et Sohrab Sepehri, écrirent de moins en moins. La nouvelle vague connut une importante évolution et d'une manière générale, c'est la poésie moderne dans son ensemble qui gagna du terrain et continua à survivre malgré sa relative profondeur de sens. Dans les années 70, le régime du Shah se radicalise. Les revues et les associations de l'opposition sont fermées, une forte censure est imposée, certains ouvrages sont saisis sous prétexte de contenir des mots tels que « rose »,« forêt » et « fil barbelé ». Les poèmes publiés en 1971, 1973 et 1974, ce chiffre respectivement à près de 70, 10 et 12, accusant une baisse considérable. Durant ces années-là, Ahmad Shamlou, Ahavan Salis et Sohrab Sepehri n'écrivent pas même un seul poème. La censure et la répression étouffent et déstabilisent aussi bien le poète révolutionnaire que le mystique ou le désespéré. Aucune figure de proue n'émerge dans le domaine de la poésie moderne. Les vers murmurés à cette époque sont anciens ou bien rédigés par Ahmad Shamlou, dont l'activité d'écriture a diminué. Et c'est dans cette atmosphère de répression du monde de la poésie que la révolution s'annonça. Aucun des genres poétiques figés, nimaïen, nouvelle vague, néo-traditionaliste, ne parviennent à soutenir et suivre l'élan de la révolution. Le poète de la nouvelle vague garde le silence et la poésie politique n'a rien de nouveau à dire. La poésie de Nima, dont l'importance résidait dans son apport symbolique, indice de l'érudition du poète, apparaissait fastidieuse et sans profondeur. Dénudé de sa dimension symbolique, il ne représentait plus rien, sinon un texte rythmé. Les néo-traditionalistes se faisaient rares depuis une décennie déjà et faisaient rarement l'objet de débats. La révolution prenait une langue nue, sans frioriture, pour exprimer la situation de l'époque, ce que les formes précédentes étaient incapables de proposer. Mais dans cet intervalle, les traditionalistes, marginalisés depuis la révolution constitutionnelle, s'assignèrent un nouvel objectif. Ils s'évertuèrent à utiliser la poésie comme outil en vue d'instaurer leur ordre. À peine assouvis, ils se rendirent compte de l'incompatibilité entre la réalité des faits et la forme poétique projetée, car chaque système d'idées engendre son propre ordre esthétique. Dans l'ordre esthétique traditionnaliste, l'art authentique est l'art traditionnel, et la poésie classique est par nature éloignée de la vie réelle. Elle ne trouve pas sa source d'inspiration dans la vie réelle, mais dans les livres anciens. Son essence, sa persistance et sa sainteté émanent de ces mêmes caractéristiques.